ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir, vous m'entendez ?
Oui.
Ouais. Donc bonsoir, bienvenue sur la causerie. On a un petit problème technique. Jonathan est à la régie pour la première fois et on n'entend pas son micro.
Eh oui, parce que ça y est, en fait.
C'est bon, ça marche.
Voilà, bien. Baptême de la technique réussi. Donc bonsoir Stan.
Bonsoir. Bonsoir Jonathan.
Et bonsoir papa et maman de Jonathan.
Bonsoir toi.
Bonsoir.
Et ben voilà, donc ce soir nous sommes en petit comité, mais nous en profitons pour faire des gros bisous à toute l'équipe de la causerie. Et puis bon ben j'en profite aussi pour vous dire que vous êtes sur la causerie, sur Radio Canu 102.2, sur les ondes FM, que vous pouvez également nous retrouver sur les blogs de Radio Canu à blogs.radiocanu.org/la causerie, et que vous pouvez éventuellement, si vous avez très très envie de communiquer avec nous, nous envoyer un petit mail à lacausericanu@gmail.com. Voilà. Et donc ce soir avec Stan, nous allons faire deux gros sujets, on va dire.
Oui, à peu près.
Voilà, et puis tu vas commencer parce que j'ai déjà beaucoup parlé.
Ouais, je vais juste rajouter 102.2. 102.2, Radio Canu, la plus rebelle des radios. Faut le dire, il paraît. C'est important. Donc oui, moi je vais commencer cette émission et je vais vous parler parce que je me suis dit c'est dommage. Il manque une grande partie de l'équipe ce soir. Donc, et alors pourtant il y a une très grande semaine politique qui vient de se passer et donc je m'y suis collé un petit peu et je vais vous parler ce soir du 49-3 et de la motion de censure. Donc voilà, donc pour rappeler un petit peu les faits, le 49-3, donc c'est un article de la Constitution qui permet au Premier ministre d'imposer l'adoption d'un texte de loi immédiatement et sans vote de l'Assemblée nationale. Dans l'idée, on a quand même quelques petits alinéas à tout ça. Il faut quand même qu'il approuve son choix par le Conseil des ministres parce qu'il engage la responsabilité totale du gouvernement. Donc là, on est sur le 49-3 pour faire passer la loi Karachi, El Karachi.
El Khomri.
Oui, c'est pour le Karachi. Pas du tout.
C'est un attentat.
Mais oui, c'est, on en a parlé aujourd'hui, il me semble, c'est pour ça.
Attentat à la condition ouvrière.
Non, mais c'était. Voilà. Je me suis un tout petit peu emballé. Donc, par rapport au 49-3, on l'a vu cette semaine, il est quand même possible de le contrer en déposant une motion de censure. Une mention de censure, d'ailleurs, au passage, je vais dire mention à des moments et motion à d'autres. C'est motion hein, qu'il faut dire, mais je sais pas pourquoi j'ai très envie de dire mention à ce niveau-là. Irrécupérable. Il existe deux types de motions de censure. Je préfère en parler tout de suite, parce que c'est très important. Il existe la motion de censure spontanée et la motion de censure provoquée. Dans le cadre d'une réponse au 49-3, c'est la motion de censure provoquée. La motion de censure, spontanée, elle peut être faite à n'importe quel moment. Les deux demandent la démission du gouvernement. Mais on en a bien une, celle qui est évoquée dans l'actualité, c'est la motion de censure provoquée. Elle est découlée d'une décision du Premier ministre de faire appel au 49-3. Le 49-3, donc, cet article de la Constitution, il est applicable uniquement pour les projets de loi de finances. c'est ce qui reste très ouvert, hein, les lois de finances, enfin, ce sont les lois de financement, mais voilà, ça a une petite particularité à ce niveau-là.
Est-ce que la loi travail, par exemple, rentre complètement dans ce contexte ?
Complètement voilà. Dans ce contexte. On regarde toutes les lois qui sont passées à ce niveau-là, on est sur la loi travail, la loi Macron, et c'est ça, le CPE, le contrat première embauche à l'époque, on est sur des lois donc typées de financement, c'est-à-dire, voilà. Le 49.3 est souvent considéré comme antidémocratique. Totalement, même, parce qu'il prévaut quand même on fait sauter toute l'étape de l'Assemblée. On clôt un débat, on fait passer directement la loi au Sénat. Parce qu'il ne faut pas non plus imaginer que la loi est tout de suite adoptée, etc. Mais elle passe directement au Sénat, sans débat à l'Assemblée. Donc c'est ce qu'on peut appeler un recours antidémocratique par excellence. Hollande en a très bien d'ailleurs parlé, vu que lui-même a considéré que c'était une loi terriblement antidémocratique sous Sarkozy, justement pour le CPE. En indiquant que c'était inadmissible.
Le CPE, c'était Chirac.
C'est Hollande en a parlé sous Chirac. J'ai dit sous qui ?
Sarkozy.
Encore une fois, je me suis déjà gouré cet après-midi. Je
vais y arriver. Ce soir.
Mais cet après-midi, je t'ai déjà dit ça justement, que c'était sous Sarkozy, et tu m'as dit, mais non, pas du tout. Et d'ailleurs, en plus, je le sais, vu que. Je vous expliquerai après. Donc, la motion de censure, c'est le moyen principal de contrer ça. De contrer donc le 49.3. Le dernier recours du 49.3, c'était en juillet 2015, par Manuel Valls déjà, pour la loi Macron. Et pourquoi je disais justement Sarkozy ? C'est parce que j'ai noté Sarkozy plein de fois sur mes petits papiers, parce que je trouve ça amusant de noter quand même que sous Sarkozy, Fillon n'a jamais, jamais utilisé le 49.3. Alors que bon, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisation du 49.3 dans la 5ème République. On en compte 84 usages depuis 1958, 32 par des chefs du gouvernement de droite, 52 par un gouvernement de gauche, dont un seul monsieur que je vais noter et qualifier de tête pensante du 49.3 et peut-être même de, je ne sais pas quel qualificatif lui donner vu que...
Un addict,
c'est vrai, un dépendant du 49.3, Michel Rocard, tout seul, l'a utilisé 28 fois. Ce que je trouve magnifique et très impressionnant. Donc, en grande partie du temps, il y a eu une motion de censure qui a été posée, mais aucune n'est jamais passée. Et c'est comme ce qui se passe actuellement, elle a été déposée par la droite, mais encore une fois, ce n'est pas passé. La seule fois où une motion de censure a abouti à quelque chose, on était sur une motion de censure spontanée et non provoquée, donc ça n'était pas suite à un 49.3, et c'est sous De Gaulle, et c'était pour destituer Pompidou. C'est passé, il a bien été destitué, et c'est passé quelque chose d'assez marrant en fait. De Gaulle a refusé la démission de son Premier ministre, et un mois plus tard, il a fait le fameux référendum où il demandait la confiance, et où ça aurait répondu oui. Donc il y a bien eu une motion de censure qui demandait la démission du gouvernement et De Gaulle a fait en sorte que non, il a redemandé la confiance et c'est passé. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour l'idée de ce qui se passe actuellement, ce qui vient de se passer dans la semaine. Moi j'ai un peu cogité sur le sujet et je me suis dit le 49.3 c'est antidémocratique, c'est incroyable que ça existe, c'est incroyable qu'on utilise encore et que ça passe aussi facilement, enfin je trouve ça inadmissible, même si on en parle depuis des années etc, mais là bon c'était vraiment dans la tendance du moment et je m'étais dit oh là là, je tapais presque du poing sur la table. Puis j'ai commencé un petit peu à travailler sur cette chronique, à réfléchir sur la chose et je me suis dit bon, le 49.3 c'est antidémocratique complètement. Ça fait passer, enfin, on saute une étape de la démocratie pour faire passer une loi. Très bien. La motion de censure, elle est très démocratique. Elle est très démocratique parce qu'il y a une obligation de majorité absolue pour la valider. C'est-à-dire que ce n'est pas au nombre de présents, mais au nombre d'inscrits. Donc ça demande, si je ne dis pas de bêtises, 288 voix nécessaires pour qu'une motion de censure soit passée. Celle de cette semaine a été refusée à 246 voix. Donc, c'est peut-être une très très belle preuve, pour le coup, démocratique, cette motion de censure. En tout cas, on demande vraiment une majorité absolue. On demande vraiment que tout le monde vote, que tout le monde donne son choix. Donc, ça fait que les deux ensemble, est-ce que c'est si démocratique que ça? Je sais pas, parce qu'elles sont quand même totalement liées. Donc on a bien un recours antidémocratique, mais on a une réponse qui est extrêmement démocratique. Donc je me suis un petit peu, je me posais des questions par rapport à tout ça.
Et cette réponse, elle est un petit peu disproportionnée aussi, parce que sachant que sur une motion de censure, on peut retourner complètement un gouvernement.
C'est exactement ça, en fait, ma conclusion où j'en suis venu, c'est que cette motion de censure, en fait, elle répond pas du tout aux besoins et à la question du moment. La motion de censure, on en a deux qui existent. La motion de censure spontanée, elle dit clairement « je suis contre le gouvernement ». Très bien, c'est comme ça. C'est une des très rares possibilités de demander au Premier ministre de démissionner avec tout son gouvernement. Dans les seules possibilités, c'est soit le Premier ministre démissionne, soit le Président demande à son Premier ministre de démissionner. Sinon, c'est les deux motions de censure. Donc il y en a une, la spontanée, ça correspond très bien. L'Assemblée décide que, par le vote d'une motion de censure spontanée, on veut changer de gouvernement. Très bien. Mais l'autre cas, c'est par rapport à une loi. Quelque part, on n'est pas d'accord par rapport à cette loi. On n'est pas complètement contre le gouvernement. On dit juste que cette loi-là, elle ne nous convient pas. Et finalement, la réponse qu'on donne, la motion de censure, elle amène la même réponse. Elle dit juste, démissionner. Ce que vous venez de faire là, cette loi-là, elle ne nous convient pas, donc démissionner. Et quelque part, je trouve ça démesuré parce qu'on a sur deux questionnements une même réponse pour deux situations différentes. Une situation où on est complètement contre le gouvernement et une situation où on est contre une loi. Et pour moi, ça ne devrait pas se passer comme ça. Dans l'idée, la motion de censure, le 49-3, personnellement, on pourrait dire qu'il est antidémocratique et qu'il ne devrait même pas exister. Je ne suis pas particulièrement contre le 49-3. Je trouve qu'il s'explique dans certains cas. Là, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça. Mais le 49-3, même dans un état démocratique, si on va vraiment loin dans l'idéal, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que dans une situation d'urgence, dans une situation où le peuple a déjà donné son avis, typiquement dans le cadre d'une promesse d'élection, une promesse électorale, ou dans plein de petits cas, il peut arriver qu'on ait besoin de trouver, de faire accélérer une loi. De faire accélérer une loi, si bien entendu c'est fait de manière intelligente, c'est fait de manière où tout le monde est d'accord et on veut juste éviter qu'il y ait des centaines de recours qui soient posés pour retarder un peu cette loi.
Mais à ce moment-là, c'est un petit peu l'équivalent d'un référendum, mais pour des questions spécifiquement financières ou relatives au travail.
Oui, complètement.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas le référendum avant, justement.
C'est pour ça que je parle de ce côté élection présidentielle, promesse électorale. Quelque part, ça fait partie du... Si on se retrouve avec un président, il y a 60% sur une très très grande chose, une très très grande demande, pourquoi pas se dire que oui, normalement, ça devrait passer. On l'a élu pour cette loi-là. On prenait l'exemple, on en parlait, même si ce n'est pas un très bon exemple, le mariage homosexuel. C'était une promesse électorale. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'était pas du tout une loi qui rentrait dans le 49-3, donc ça n'a pas été adopté. Mais ça aurait peut-être pu, je sais pas. J'essaie de voir. Je reste dans un univers assez idéaliste où je me dis que le 49-3 peut être utilisé de manière intelligente dans des moments où l'urgence demande de. Parce que, encore une fois, on a une réponse démocratique au 49-3. Je me contente pas juste de dire que le 49-3, ça reste antidémocratique. Mais,
oui, mais si la réponse n'existerait pas. Tu pourrais pas accepter cet article-là.
Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a un problème. C'est que la réponse en soi, elle n'existe pas. Elle est présente, mais elle n'existe pas. Elle n'a jamais abouti. Elle n'a jamais servi à autre chose qu'à dire que l'opposition puisse dire « Nous, on n'est pas d'accord. »
Parce qu'elle est disproportionnée.
Parce qu'elle est disproportionnée, parce qu'elle implique beaucoup de choses. Donc, on a une loi, un article qui est antidémocratique, une réponse qui devrait le permettre de... mais qu'il ne le fait pas. Et alors, je réfléchissais à ça, et moi je réfléchissais justement pas en me disant juste, moi j'ai supprimé le 49-3, parce que finalement je trouve une certaine utilité dans certains cas très précis, et pourquoi pas. Et je me disais, mince, pour une motion de censure, il faut qu'il y ait une majorité absolue. C'est-à-dire qu'ils sont tous en train de travailler ce jour-là. Il faudrait peut-être en profiter, c'est peut-être une idée de...
Alors, pour mettre bien au clair l'auditeur, si une motion de censure est votée, tous les parlementaires sont obligés d'être présents, c'est ça ?
Non, mais il faut qu'il y ait...
Le quorum.
Le quorum absolu, donc la moitié. Et on sait que le monde amène le monde, donc s'il y a la moitié, l'autre moitié sera
probablement
par là.
Oui. Voilà. Et du coup, ça veut dire que c'est un jour où tous nos élus, finalement, travaillent, enfin, sont présents.
Et oui, c'est ça qui est magique. C'est que c'est un jour où tout le monde est là pour dire non, on veut pas. Et je m'étais dit qu'au lieu de dire... Encore, je reviens juste sur une petite notion du 49.3 qui est la notion d'urgence. Le 49.3, s'il est utilisé de manière intelligente, il est utilisé que dans une urgence, parce que s'il faut clore un débat et accélérer la procédure, c'est forcément une loi qui demande une urgence. Et ça va... Et de devoir, si la motion passe et que le gouvernement doit poser sa démission... l'urgence, c'est complètement pété. Je veux dire, là, il n'y a plus aucun sens à tout ça. Ça prend un temps fou, etc. Donc, s'il y a une vraie urgence, c'est bizarre. Et donc, je m'étais dit, bah tiens, si, vu qu'ils sont tous là, on n'a qu'à leur dire, bah, au lieu que ça soit une motion qui impose le gouvernement de démissionner, et si c'était une motion qui impose les gens de trouver, de discuter, de se retrouver là, ça devient la priorité numéro un du gouvernement.
C'est une motion qui imposerait au gouvernement de bosser, en fait.
C'est exactement ça. Mais bosser dans l'urgence sur une seule thématique. C'est un petit peu ça, dans mon idée, c'est de se dire, ok, il y a une urgence là-dessus, on n'est pas d'accord avec ce que vous avez proposé, votre texte de loi, donc on va tous bosser dessus, tant qu'on n'a pas trouvé d'idée, on part pas. On reste à bosser sur cette thématique. Alors, on va changer la loi, on va peut-être l'annuler, on va tout ça, mais on va s'accorder avec le quorum, avec la majorité absolue. Vu qu'on est tous là, profitons-en, on va faire une loi qui, cette fois, va pas passer avec 10 voix, 6 pecnos dans un coin qui ne dormaient pas ce soir-là et qui ont voté oui pour Adopi, par exemple. mais voilà, ça demanderait, pourquoi pas, cette réflexion-là. Et encore une fois... Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que derrière, si vraiment on n'est pas d'accord avec le gouvernement qui est en place, si l'Assemblée n'est pas d'accord avec le gouvernement qui est en place, bah, il y a toujours la motion de censure spontanée. Il y a toujours cette possibilité de virer le gouvernement, ça ne nous va pas. Donc en soi, il y a une urgence, on répond à l'urgence, via cette motion qui demande de travailler, et si vraiment c'est n'importe quoi, on les vire. Voilà, et on me fait des grands signes au niveau de l'heure, donc je vais envoyer ma première musique. Que je vais annoncer, c'est l'Arruda Salska et c'est l'évolutionnaire.
Mais tout n'est pas si noir, je sais.
Vous êtes de retour dans la causerie 102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Yeah!
Parfait, quelle belle reprise, c'était magnifique.
Ah oui.
Je vais continuer un tout petit peu sur tous ces événements. Donc, je viens de parler du 49-3. Encore une fois, hein, je répète pour si jamais je ne veux pas me faire taper non plus. Le 49-3, comme il est employé actuellement, est totalement antidémocratique. Je respecte. Mais, respect. Utilisé d'une autre manière, je pense qu'il ne faut pas forcément supprimer le 49-3. Voilà. Donc moi après je me suis j'ai un petit peu regardé tout ce qui se passait à ce niveau, enfin au niveau de la loi du travail, au niveau du 49-3 et au niveau de tout ça, et j'ai trouvé quelque chose de très très drôle qui s'est passé sur internet, sur Twitter. Le compte officiel de House of Cards, donc le compte Twitter officiel de House of Cards, c'est un très gros compte Twitter, qui a fait un petit tweet adressé directement donc à Manuel Valls, un très très beau tweet avec un petit Frank Underwood qui dit la démocratie est tellement surfaite. Hashtag loi du travail, hashtag 49.3. Avec un petit gif animé de Frank Underwood qui rigole un petit peu. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était très très bien vu de la part de Netflix à ce niveau-là. Et en même temps, dans ma tête, je me suis dit, tiens, si les gens du marketing côté Manuel Valls, les équipes un petit peu, elles ont un magnifique outil pour répondre et pour rester un peu droit dans les bottes, pour dire, je sais pas, quelque chose du genre... entre vous, vous êtes la fiction, nous la réalité. Dans la réalité, parfois, il faut savoir clore un débat. C'est un peu ce qu'il avait déjà dit. Ça se reste dans une thématique. Alors, c'est du grand n'importe quoi et je ne cautionne pas du tout, mais au moins, il y aurait eu l'idée que il reste droit dans ses bottes dans ce qu'il dit. Donc, bon. Parce que c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit il faut savoir clore le débat. C'est vraiment une de ses phrases par rapport au 49-3. Et il s'est contenté de répondre un truc absolument fantastique. Il s'est contenté de répondre. Je prends ma petite feuille, même si on la connaît tous. La démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Donc, qui est une phrase de
Churchill.
Voilà. et je comprends pas. Je reste complètement dubitatif par rapport à cette réponse. En fait, je n'arrive pas du tout à comprendre ce qu'il a voulu dire. Il se fait attaquer. On lui dit, en fait, tu ne fais plus de la démocratie. Enfin, tu vois bien, tu utilises la démocratie, mais tu n'en fais plus. Et il se contente de dire que la démocratie, c'est le mieux. Mais dans ce cas-là, s'il n'en fait plus et il valide le fait qu'il n'en fait plus, ce qu'il fait, c'est pas bien. Donc lui-même, il dit que c'est pas bien ce qu'il fait. En fait, je ne comprends vraiment pas du tout et ça me perturbe énormément. Je ne comprends pas comment un cabinet du Premier ministre peut être autant à côté de ses pompes. Et en même temps, je me dis que c'est pour ça qu'il fait le 49-3 à la fin. S'il n'est pas capable de comprendre un simple tweet, il n'est pas capable de comprendre grand-chose derrière. Donc voilà. Et juste pour finir, parce qu'il faut quand même se presser dans le temps, parce que ça m'a fait beaucoup rire quand même cette semaine, Sarkozy qui était en visite à Lyon, qui était en visite avec les entrepreneurs lyonnais, et qui s'est exclamé dans une grande discussion, mais qu'est-ce que c'est que le Bon Coin ? Et le Bon Coin, c'est quand même un site utilisé par plus de 80% des Français, avec un nombre d'abonnés, un nombre d'inscrits et d'annonces tous les jours extrêmement dingue, et on voit bien encore une fois qu'il y a beaucoup de niveaux différents en France. Il y a nos élites qui sont vraiment perdues très très loin. Voilà.
Et qui ne comprennent pas les tweets en 40 caractères et qui ont du mal à utiliser le Bon Coin.
Ah, c'est pas qu'ils ont du mal. En même temps, Sarkozy, n'a pas forcément besoin d'acheter sur le Bon Coin d'occasion, mais de là à ne pas connaître une des plus gros sites et donc une des plus grosses forces de notre pays, je trouve ça marrant.
Et
chanson suivante.
Ouais, tu nous expliques ce que c'est.
J'essaie de réfléchir, c'est quoi déjà ? C'est les casseurs flotteurs ?
Je crois, ouais.
Et c'est j'essaye, voilà, c'est ça.
Et c'est parti.
Hier et demain sont la même journée, la boucle est bouclée. Rappelle-moi d'arrêter la musique avant d'aller me coucher. Je mets 6 mois pour écrire des couplets que personne va écouter. La seule personne qui crie mon nom, c'est mon père quand je suis bourré.
Cigarette sur cigarette dans une bouteille sans fond, je fais pas de nouvelles chansons. On fait des tours de périph', des tours en ville, des tours à la Fnac, en bref on tourne en rond. J'attends un signe extraterrestre, j'attends qu'on vienne me dire toute ta vie n'est qu'un grand mensonge. Pendant que mon patron pousse à souiller tous mes principes, mais c'est mon job, je passe l'éponge. Et on se détruit la santé pour se sentir en vie. Je suis moins petit, je suis plus vieux, mais j'ai jamais grandi. La plupart des choses dont rêvent les gens d'ici me feraient mourir d'ennui. La plupart des choses dont rêvent les gens d'ici me feraient mourir d'ennui. J'avais des rêves, maintenant j'ai des regrets. Contrairement aux vieilles bouches de ma vie, je serais peut-être jamais refait. Je m'ennuie tellement, je mate la barre de téléchargement défilé. Des fois je sors dans des boîtes pourries où je rêve de tabasser et le DJ. Si j'écrivais des chansons d'amour, ce serait pour dire qu'ils n'existent pas. Je fais semblant d'écouter personne, mais c'est seulement parce que j'ai peur de ce qu'ils disent de moi. Tout le monde me dit que je finirai par changer, j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent y croire. Alors que je suis même pas capable de changer une ampoule, ça fait 6 mois que je pisse dans le noir. J'ai les fantasmes d'un ado et les creurs d'un petit vieux. Tout ce que je voudrais, c'est trouver un juste milieu. Je mens surtout à moi-même quand je répète que j'essaye de faire de mon mieux. Je mens surtout à moi-même quand je répète que j'essaye de faire de mon mieux. Tous un rang, j'ai pas dû recevoir leur putain de plan. Allez leur dire que c'est plus marrant. J'aimerais bien comprendre le truc maintenant. C'était censé durer juste un temps. Bientôt des piges que j'ai plus 20 ans.
Plus 20 ans.
Vous êtes toujours dans la causerie sur Radio Canu, le 102.2, tout ça. Et moi, je vais vous parler du travail. Voilà, parce qu'on n'en a pas assez parlé, hein, j'ai envie de dire. Et j'aimerais en parler d'une manière un petit peu différente, on va dire. Alors, tout a commencé quand j'ai découvert sur un de nos fameux réseaux sociaux sur lesquels nous gravitons également, nous la causerie, hein, une vidéo d'un certain monsieur Jacques Gamblin, donc qui est plus ou moins un acteur, un orateur des temps modernes, Jacques Gamblin, qui s'exprime au Parlement des écrivains et qui en gros dit. Voilà, si on fait tous des petites choses multipliées par des milliards, ben ça fera des grandes choses. Et il a pas tort, en soi, c'est tout à fait logique, hein, c'est même pas de l'ordre du syllogisme. Donc pourquoi partir de ce discours? En fait, je vais vous faire un sale coup, je vais retourner un peu plus loin. Je vais aller sur Wikipédia. Sur Wikipédia, je vais chercher la définition de travail. Alors, qu'est-ce que je lis quand je vais sur Wikipédia? Je lis. Au sens économique usuel, le travail est l'activité rémunérée qui permet la production de biens et de services. Ça, pour être honnête, c'est la définition qu'on apprend à tous les élèves qui font une seconde avec une option éco. C'est la base. Et c'est...
Ce qui est rémunéré, c'est pas l'activité, c'est la force de travail.
Non, mais on y vient, ok ? Spoil pas tout. Alors, donc là, dans l'idée, en effet, c'est l'idée de rémunérer une activité en échange d'une production. Donc, sur Wikipédia, on continue de lire et on voit que avec le capital, c'est un facteur de production d'économie. Le travail est fourni par des employés en échange d'un salaire et le processus d'entrée et de sortie de l'emploi se fait par le marché du travail. Et là, déjà, on a monétisé beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans un premier temps, on parlait d'un travail comme la vente de biens et de services contre rémunération. Et là, on dit que la force de travail en elle-même, c'est-à-dire le travail que l'on peut fournir, est aussi quelque chose que l'on peut vendre. Donc comment se vendre sur le marché du travail en étant un employé, en se faisant employer. La vente de la force de travail des individus est depuis longtemps institutionnalisée. C'est-à-dire que nous avons un ministère du Travail, nous avons un ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social en France, il ne faut pas l'oublier, et du Dialogue social. Surtout. Et quelque part, en fait, le fait d'institutionnaliser le travail, la manière de gérer la force de travail des individus fait que nous organisons le travail de manière en société. Mais le travail, c'est aussi autre chose. Si on va voir sur Larousse, le dictionnaire Larousse, on s'aperçoit qu'il y a d'autres définitions du travail qui vont correspondre à l'idée d'une activité, d'un effort qui va permettre l'élaboration technique et technologique d'un produit. Et du coup, qui va être nécessaire à la survie d'un groupe d'humains. Et à son épanouissement également. Donc là, on n'est pas dans un travail qui va être rémunéré de manière financière. On est dans un travail qui va porter ses fruits au niveau du groupe ou au niveau de l'individu. Quand on regarde qu'il y a des synonymes du travail qui sont l'accomplissement, le façonnage, la gymnastique, l'accouchement même, qui est un travail, ce genre de choses, on ne parle pas de vente de la force de travail, mais c'est quand même du travail. C'est produire un bien ou un service quelque part. Je suis désolée, mais quand tu accouches d'un bébé, tu produis quelque chose. Hein. Enfin, ça
tu n'auras pas toujours service. Hein.
Et du coup, le travail, finalement, qu'est-ce que c'est au fond ? C'est ce qui permet d'optimiser et d'améliorer ses connaissances, sa pratique, sa production dans divers domaines. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est censé être harassant, ce n'est pas forcément quelque chose qui est censé être exploitant, et ce n'est pas non plus quelque chose qui est censé être rémunéré. Quand tu joues d'un instrument de musique, tu travailles pour réussir à jouer de cet instrument de musique, tu n'es pas rémunéré. Par contre, tout travail mérite salaire, c'est un proverbe qui va exprimer le fait qu'il y a toujours une compensation. En effet, quand tu travailles à quelque chose, tu obtiens un résultat. Donc, le travail, finalement, c'est le fait de mettre les mains à la pâte pour produire quelque chose, pour avoir un résultat, pour finalement faire avancer les choses. Alors, je vais vous laisser sur un petit morceau de musique sympathique et puis je reviens avec la deuxième partie de mon sujet juste après.
Travailler plus, gagner plus, j'aurai moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent.
J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas travailler du tout. Moi ce que j'aime c'est glander. Quand je glande faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs je me fume un pétard. J'aime pas travailler patron. Que je te prends pour un con,
ça bouge sud-est.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime
Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaie de rester positif. Si le droit redouble l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas ouais, travailler du tout. Et si un jour un beau matin, le dans mon allée au turbin, je prendrai mes jambes à mon cou et je partirai pour un Pérou. Ce sera un pays sans banc, ce sera un pays sans banc, et tranquille sous mon arbre à joint, je n'aurai plus qu'à lever la main. Je ne travaillerai jamais debout, pensez pas me faire bosser assis, encore moins me faire taper à genoux, je ne travaillerai plus. Finalement, je ne travaille pas, je ne cherche même pas d'emploi. Et le reste là, vivoter au soleil sans préoccuper, au soleil sans préoccuper, au soleil sans préoccuper.
Et donc, bon retour dans la causerie. 102.2, tout ça. Et Radio Canu. Et donc je vous parlais du travail. Et donc cette magnifique chanson pouvait exprimer un petit peu mon ressenti actuel par rapport au travail. Et c'était une magnifique chanson de Zoufris Maracas. J'aime pas travailler. Voilà. Alors je le comprends parce que moi aussi j'ai quand même beaucoup de mal à apprécier de vendre ma force de travail à un patron finalement. Qui n'a pas forcément les mêmes ambitions politiques au sens large du terme que moi. Et du coup, c'est très compliqué finalement pour la plupart des individus d'aller travailler voilà, pour un truc qui ne correspond pas à leurs idées. Mais le travail est nécessaire. Oh, j'adore balancer des phrases comme ça qui font peur, mais je vais m'expliquer tout de suite. Alors, le travail est nécessaire pour construire une société. Et en termes de participation à la vie en communauté. C'est-à-dire que finalement, même si un travail n'est pas forcément rémunéré de manière financière, comme je le disais tout à l'heure, il peut être rémunéré, il peut être gratifiant. Et il peut être gratifiant aussi parce que dans une société, quand on travaille tous ensemble, on peut obtenir la coordination de la société et aussi un bien-être collectif. On est obligé de toute manière de travailler ensemble pour vivre en société, ne serait-ce que pour se nourrir ou pour dormir, etc. Et depuis l'aube des temps.
Ce qu'on appelle le renouvellement de la force de travail.
Oui. Probablement, chez les pygmées.
Pas chez Karl Marx.
Chez Karl Marx. Non, mais c'est surtout le fait que de toute manière, il n'existe rien qui ne soit construit sans travail. Il n'existe rien qui ne soit produit sans travail à la base. Sans réflexion, la réflexion est un travail. Sans voilà, tout est question de ça. Et donc, je reviens sur Jacques Gamblin qui disait dans son discours que de toutes petites choses multipliées par des milliards. C'est faire de grandes choses. Et finalement, c'est un travail. C'est un travail, même si c'est des toutes petites choses, c'est un travail à chaque fois qui est produit. Et ce travail répété par des milliards, qui n'est pas rémunéré, parce que oui, Jacques Gamblin, dans sa vidéo, prend pour exemple le monde associatif ou les électrons libres qui vont décider d'aller nettoyer une plage, par exemple, ce genre de choses après une catastrophe écologique ou. Ce genre d'actions qui finalement sont des actions qui demandent du travail, qui sont faites à petite échelle par des petits groupes de personnes, mais qui finalement sont faites partout dans le monde. En fait, ce type de travaux-là, finalement, c'est des travaux qui sont répartis de manière équitable. Enfin, la charge de travail est répartie de manière équitable puisque les personnes choisissent d'aller travailler pour ça. Sans patron ou forme de dirigeant qui serait oppresseur quelque part, si ce n'est l'idée qu'il faut faire quelque chose, s'investir d'une mission. Et enfin, c'est à l'échelle planétaire. C'est-à-dire qu'on a quand même... Enfin, vous vous rendez compte de ce que je viens de dire. On a du travail utile pour la société qui, bon, n'est pas rémunéré, et c'est la partie que je trouve injuste dans tout ça, mais qui est quand même répartie de manière équitable, où il n'y a pas de dirigeant, et c'est à échelle planétaire. Enfin, c'est quand même énorme, on est capable de faire ça. Voilà, donc ça, je trouve ça magnifique. Et ça me permet d'en revenir un petit peu à cette loi travail et à la question du travail. Merde. Il faut se réapproprier notre force de travail. On travaille tous les jours. On travaille le matin quand on se lève, on travaille quand on part au travail, on travaille quand on réfléchit, quand on fait de la musique, quand on lit, quand on essaye de penser la société, quand on essaye de s'entendre avec les autres. On travaille quand on est au travail, mais on travaille aussi quand on fait le ménage chez soi, la bouffe, etc. On travaille quand on élève ses enfants, on travaille quand on essaye de faire partie d'un milieu associatif, d'une collectivité quelconque. On travaille tout le temps. On n'est pas toujours payé pour ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être payé pour ça, mais je dis qu'à un moment donné, il faut se réapproprier notre force de travail et qu'elle doit être estimée à sa juste valeur. Et avec un code du travail, finalement, qui autorise l'exploitation, il faut bien se dire qu'il ne sera jamais possible qu'on estime notre force de travail à sa valeur réelle. On sera toujours dans cette dévaluation. Moi, je considère que le travail appartient à ceux qui le fournissent. C'est-à-dire un ouvrier dans une chaîne, la production devrait lui appartenir, ou du moins qu'on lui donne l'équivalent de ce que finalement il rapporte dans son temps de travail. Qu'on puisse... Parce que quand même, il y a des preuves du fait que cette force de travail, elle appartient à ceux qui la donnent. C'est qu'à un moment donné, le principe d'une grève, quand des gens s'arrêtent de travailler, ça stoppe tout le mécanisme, ça stoppe tout le système qui est enrayé par les employés qui arrêtent de travailler. Quand on a des personnes qui meurent en masse, comme dans les cas de grandes guerres, etc., on a besoin de retrouver de la main d'œuvre. On a besoin de trouver des gens pour travailler. Des gens qui fournissent la force de travail. Et sans travail et sans travail collectif, finalement, notre société, elle tombe. Elle tombe totalement. On ne peut maintenir aucune société sans le travail collectif et sans le travail individuel qui porte à l'épanouissement. Et donc, le travail est une forme de puissance que l'on ne doit pas laisser au contrôle de n'importe qui. Avec cette loi de travail, je suis désolée, mais c'est laisser notre force de travail, notre puissance, notre capacité à réaliser une société à des gens qui n'ont pas du tout les mêmes ambitions que nous, qui n'ont pas du tout les mêmes idées économiques que nous, ni politiques. Et à un moment donné, on ne peut pas laisser faire ça. Il y a des moyens de se réapproprier cette force-là. On les connaît. C'est peut-être des moyens qui ont montré des faiblesses. Rien ne nous empêche de réfléchir sur comment les améliorer, mais à un moment donné, ils ont aussi montré leur efficacité. Quand une grève se déclenche, que tout le monde fait grève, c'est quand même paralyser une entreprise. C'est bloquer toute une production, c'est bloquer du profit. Et puis, c'est vrai qu'on est dans une société où finalement les gens se sentent emprisonnés. On leur a volé leur force de travail en leur donnant des habitudes de consommation qui vont leur mettre peut-être des plafonds et des limites dans ce genre d'action. Mais il ne faut pas oublier, messieurs, dames, qui bossaient, qui avaient des crédits, etc., que vous l'avez largement mérité, que tout ce que vous fabriquez du matin au soir dans vos usines, dans vos entreprises de services, c'est des choses qui rapportent énormément. Que on n'est pas forcément... Alors, suivant, je reste quand même ouverte à l'idée qu'il y a des gens, des patrons, des gens qui montent des boîtes, qui sont conscients de cette chose-là et qui essayent... Je vais prendre ton exemple que tu m'avais donné pendant une pré-prépa, ouais, de l'entreprise américaine qui a décidé de payer tous ses employés au même salaire. Enfin,
c'est le patron qui avait décidé de... Il gagnait beaucoup d'argent, il avait beaucoup d'argent, et il s'est dit, bon, bah, en fait, ma boîte, elle fonctionne que grâce à mes employés. Enfin, il s'en est rendu compte. Et donc, il a décidé que tous ses employés, lui-même, seraient payés à égalité. C'est-à-dire que tout le monde est augmenté, hein, tout le monde a été énormément augmenté, mais tout le monde était payé de la même manière. La secrétaire jusqu'à l'ingénieur, etc., tout le monde de la même manière.
Mais il y a eu un écueil quand même, enfin, on peut en parler.
Ah oui, on peut en parler. Au bout de 6 mois, 1 an, la boîte a commencé à vraiment, vraiment décliner. Parce que les trois quarts des gens qui considéraient qu'ils faisaient un travail supérieur aux autres sont partis en disant, bah non, moi, je, je trouve pas ça acceptable d'être payé autant que la secrétaire.
Et voilà. Alors, ceci dit, je pense que si ces gens-là avaient eu conscience de la force de travail déployée par la secrétaire, hein, quelque part, ils auraient accepté d'être payés pareil. À un moment donné, c'est ça aussi. Il faut reprendre conscience que le mec qui va vider tes poubelles le matin, il dépense une force de travail qui est au moins équivalente au type qui finalement devrait aller faire son boulot à l'Assemblée nationale sans qu'on ait besoin de lui sortir un 49-3. Voilà. Alors, je vais conclure là-dessus parce qu'il se fait tard. On a pris un petit peu de retard et, chers auditeurs, j'en suis vraiment désolée, c'est de ma faute. C'était ma première technique et je suis pas très...
Ça s'est très bien passé, bravo à toi.
Merci, c'est gentil, t'es tout mignon. Et puis, je vais en profiter, on n'a pas vraiment de brève à vous annoncer, sinon deux choses. Mardi 17 mai, d'abord, c'est mon anniversaire. Alors, allez manifester, quoi. Il y a un jour de grève qui est posé par les syndicats et du coup, vous pouvez y aller, c'est officiel. Jeudi aussi, apparemment... vous pouvez aussi faire grève. En fait, en ce moment, je pense que vu la question de l'exploitation du travail que l'on nous prépare, je pense que vous pouvez faire grève et pas seulement pour mon anniversaire. Voilà.
Même si c'est la meilleure des raisons.
Oh, t'es...
Surtout pas, hein. Faites grève pour les vraies raisons.
Bref, faites grève, faites lutter.
Bon, moi, je pense quand même, si on veut se documenter sur la force de travail, c'est quand même Karl Marx qu'il faut lire.
Alors.
Et pas oublier que quand même, ça fait partie de l'individu, de notre intégrité, et que porter atteinte à l'intégrité d'un individu, c'est atteinte aux droits de l'homme, et qu'il faut être vigilant.
Mmh. Je suis d'accord.
On va finir là-dessus, je trouve ça très beau.
Bon anniversaire.
Tu n'aimais quoi en musique ?
C'est pas tout de suite. Et puis, ben, on va se quitter sur le générique d'une nouvelle série Netflix qui s'appelle Marseille.
Inadmissible, ne regardez pas ça.
Dis pas ça. Ça a son intérêt. Mais ceci dit, la musique qui est beaucoup plus ancienne, c'est Orange Blossom avec Yacidi. Et du coup, on vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Et ne lâchez rien. Jamais.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Travaillez plus, gagnez plus, j'aurai moins de temps.
Mince, c'était pas la bonne.
بسيرتي كتير مش هسمحلك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير مش هسمحلك تأذي مشاعري أو تتسلك بسيرتي كتير مش هسمحلك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير